Savoir et comprendre sur RMC le matin. D'abord Emma Strack, la question SMS, le point Emma.
On achète beaucoup en cette période de Noël, cadeaux, nourriture, jouets, oui ou non. Regardez-vous l'origine des produits que vous achetez. Vous répondez oui à 71,8%, non à 28,2%. Il vous reste encore une grosse heure pour vous exprimer. RMC oui, RMC non par SMS au 6 26 26.
Avec nous Philippe Marini, sénateur UMP de l'Oise, rapporteur général de la commission des finances du Sénat. Philippe Marini, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous dites, les pertes enregistrées en bourse en 2008 par les particuliers pourrait être déduite dans une certaine limite de leur revenu imposable de 2009. C'est-à-dire que je suis un particulier, j'ai joué en bourse en 2008.
Jouer. Pas que tout le monde dit jouer en bourse.
Bon, pardon, Philippe Marini. Alors, j'ai investi en bourse.
Voilà,
préférez ? Bon,
oui.
J'ai investi en bourse en 2008. J'ai perdu une partie de mon investissement. Je pourrais déduire ces pertes de mes impôts sur le revenu.
Dans une limite raisonnable, 10 700 euros, et croyez-moi, les gens qui ont vendu dans les conditions du marché entre le 1er janvier et le 1er décembre, c'est qu'ils n'ont pas pu faire autrement, ou alors ils sont complètement stupides.
Oui. Oui, non mais d'accord, mais enfin on peut d'abord quand on investit en bourse, on sait qu'on peut gagner, mais on sait qu'on peut perdre.
Mais on peut avoir besoin de son argent pour une cause imprévisible et être obligé de vendre au plus mauvais moment.
Mais c'est une assurance, alors.
Il y a beaucoup d'exemples autour de nous à ce sujet,
oui.
Chez les petits actionnaires.
C'est une assurance que vous proposez.
Oh non, c'est une mesure exceptionnelle pour un temps de crise, parce que moins 45%, Monsieur Bourdin, est-ce que vous avez déjà vu ça?
Mais alors, Philippe Marini, j'achète un appartement, je dois le revendre parce que j'ai un problème, j'ai besoin d'argent, je perds parce que je le revends moins cher, là aussi je pourrais déduire de mes impôts le manque à gagner?
Mais vous avez beaucoup d'aides en matière de logement. Vous avez le prêt à taux zéro, vous avez la déductibilité des emprunts, vous avez beaucoup de choses qui n'existent pas dans le domaine des valeurs mobilières.
Mais si j'ai pas les moyens d'investir en bourse, je n'ai aucune déduction d'impôt, hein, Philippe Marini.
Écoutez, on est bien content de trouver les petits actionnaires pour stabiliser le capital des entreprises, les braves gens qui se sont serrés la ceinture pour épargner pendant leur vie, qui sont un peu âgés et à qui il peut arriver des pépins ou qui doivent rendre service à leurs enfants ou petits-enfants. On est bien content de les trouver. Alors effectivement, c'est un public qui n'est pas très très politiquement conforme. Hein. Là, ce sont des gens dont il ne faut surtout pas s'occuper. À écouter un grand nombre de rédactions ce matin, mais moi je me fâche contre cette approche des choses.
Non mais c'est pas les rédactions qui font la loi, mon cher Philippe Marini. C'est vous qui faites la loi, c'est vous. Donc vous défendez cet amendement en concertation avec Bercy, on est bien
absolument
d'accord.
Absolument.
Hein? Il sera soumis au vote aujourd'hui.
Cet après-midi, tout à fait.
Oui, dans le cadre de la discussion sur les articles dits non rattachés du projet de budget.
De la loi de finances.
Ce qui veut dire que le petit porteur, je dis bien le petit porteur, qui a investi en bourse en 2008 et qui a perdu une partie de son investissement, pourra déduire ses pertes de ses impôts sur le revenu.
Alors, de ça, pourra les déclarer dans sa déclaration de revenus à remettre au mois de mars 2009, et le résultat du calcul impactera ce qu'il devra en 2010. Hein, c'est un processus différé. Voilà.
Et dites-moi, il vaut mieux quand même peut-être, je sais pas moi, investir son argent dans les entreprises, non?
Est-ce que vous ne croyez pas qu'acheter des actions de l'air liquide, c'est investir dans une entreprise?
Oui,
sauf
que ce sont des grandes entreprises qui sont en bourse, Philippe Marini.
Pourquoi est-ce qu'on dissuaderait? Écoutez, tous ces commentaires sont en train de dissuader les gens d'investir directement dans les grandes valeurs, dans les grandes entreprises françaises. Enfin, je ne comprends pas ce dénigrement à l'égard de la bourse actuellement.
Mais il ne s'agit pas de dénigrer la bourse, Philippe Marini.
Mais
il s'agit de dire,
Monsieur
Philippe
Hamon,
Marini. Oui.
Alors, le
Parti allez-y, répondez,
vient
répondez.
De se sortir de son marasme,
oui.
Sort un porte-parole, s'appelle Monsieur Hamon, qui trouve mon initiative invraisemblable. Moi, c'est contre ce genre de perception des choses, ce genre d'approche que je me bats.
Oui. Oui, mais invraisemblable,
c'est
dit-il.
C'est ça que dit M. Hamon. Il trouve que mon initiative est invraisemblable. Il trouve qu'il est invraisemblable qu'on ait encore des actionnaires, des petits porteurs dans ce pays. C'est moi qui considère son approche comme invraisemblable. Enfin, en tout cas, si les socialistes connaissaient l'économie, ça fait assez longtemps qu'on le saurait.
Bon, Philippe Marini, dernière question, période de crise, franchement, est-ce le moment, alors que l'État, a besoin d'argent?
C'est une situation qui est issue de la crise.
Mais Philippe Marini, celui qui investit en bourse doit participer, comme vous le dites, à la bonne marche de l'entreprise et à la bonne marche de l'État. Donc, est-ce le moment pour l'État de perdre un peu d'argent en déduisant des impôts de ceux qui ont investi en bourse les pertes subies?
Vous savez, on fait beaucoup, et on a raison, pour la pauvreté, pour les personnes les plus défavorisées, les plus fragilisées.
Oui.
Et il ne faut pas oublier que dans ce pays, et ça c'est mon message, il y a une classe moyenne, des gens qui font ce qu'ils peuvent, qui ont des budgets serrés, qui payent tous leurs impôts, hein, et dont il faut s'occuper de temps en temps. Parce que c'est de cet espace moyen que dépend l'équilibre de la société.
Merci Philippe Marini. Dans tous les cas, vous avez pu défendre votre point de vue sur l'antenne d'RMC. Merci, au revoir. 8h17, qu'en pensez-vous? Vous réagissez, je suis persuadé que ça va faire réagir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditeurs. On y reviendra entre 10h et 11h.
RMC, Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin.
8h20, la rencontre entre Nicolas Sarkozy, le Dalai Lama, fait du bruit en Chine. Plusieurs journaux chinois, contrôlés par l'État, avertissent la France qu'elle doit s'attendre à des conséquences après cette rencontre. Provocation fourbe, écrivent les journaux. Président français arrogant. Nous sommes avec Émilie Torgemen en direct de Shanghai. Émilie, vous avez lu les journaux chinois, que disent-ils?
Eh bien, ce matin, ils se lâchent parce que tout simplement le pouvoir les y autorise. Alors, sur le China Daily, qui est un quotidien en anglais, on a un long édito qui est titré « Un affront inacceptable ». En fait, la plupart des journaux ce matin reprennent l'appréciation de l'agence officielle Chine Nouvelle. En gros, du point de vue français, la rencontre était une approche opportuniste, irréfléchie et myope. Et le Global Times, qui est un journal du Sud ici, fait tout un dossier sur la rencontre avec une belle photo de Nicolas Sarkozy en une. Et la plus belle photo, je l'ai juste devant les yeux, c'est celle de l'Oriental Morning Post. Alors on voit Nicolas Sarkozy qui a beaucoup de mal, il est en sueur et on voit une goutte de sueur qui perle de son nez.
Oh là là là, c'est fourbe ça quand même, hein. Aller chercher la goutte de sueur de Nicolas Sarkozy, ça c'est fourbe. Bien, est-ce qu'un boycott menace la France, Émilie?
Et bien ça, c'est la grande question. Alors, dans les journaux, on a un double discours. Le ministère des Affaires étrangères appelle officiellement au calme. Mais à part ça, on a toute une série d'experts qui rappellent qu'il y aura probablement des sanctions économiques, soit sur le commerce, soit sur les investissements, ou contre les grands contrats français en négociation. Le China Daily parle d'un boycott des produits Carrefour à nouveau, qui aurait commencé samedi et qui aurait déjà été largement suivi. Alors juste pour vous le dire, c'est pas du tout ce que rapporte l'AFP ou les journaux étrangers.
Bien, ben merci Émilie. En direct de Shanghai, et nous aurons Ramayad tout à l'heure de 8h35 à 9h pour lui parler évidemment de cela, pas que de cela. Hein. Il paraît qu'elle va être nommée secrétaire d'État aux affaires européennes. On va en savoir un peu plus, on va parler de l'UMP, enfin, etc., etc. Il est 8h22.
RMC, Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 8h24, Eric Israelewicz est avec nous pour parler d'économie, comme tous les matins, le directeur de la rédaction de La Tribune. Et je vous engage à lire La Tribune, un journal économique très bien fait, et surtout très facile à lire quand on n'est pas un grand spécialiste de l'économie, comme moi. Mon cher Eric, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Non mais, ne rougissez pas Eric, non mais c'est vrai, je vous dis ça sincèrement, c'est vrai. Paris-Pékin, on vient d'en parler avec notre correspondante à Shanghai, on va en parler avec Ramayad, c'est un peu la brouille, le ton monte. Est-ce qu'il y a un risque, franchement, pour les entreprises françaises, Eric?
Il y a un risque, oui, mais un risque très minime. En fait, c'est vrai, depuis quelques années, Pékin, la Chine, est tenté d'utiliser l'arme commerciale pour imposer ses vues. Grosso modo, le message de la Chine, c'est « touche pas à mes affaires, sinon je fais plus d'affaires avec toi ». Alors, c'est une menace, évidemment, qui peut faire peur, parce que la Chine, c'est un marché énorme, hein, malgré la crise, malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui. La Chine, si vous voulez, si vous vendez des avions, si vous vendez des centrales nucléaires, même si vous vendez aujourd'hui des produits de luxe, la Chine, c'est un marché énorme. Donc, la menace, la perspective qu'on vous arrête de faire des affaires avec vous, c'est une menace qui peut faire peur. Mais si vous regardez en réalité, cette arme commerciale, la Chine ne l'utilise pas vraiment.
Elle est peu efficace.
Efficace. Regardez, vous vous rappelez, hein, au printemps dernier, quand la flamme olympique était passée à Paris, hein, ça avait fait beaucoup de bruit déjà. Et déjà, la Chine avait appelé à des boycotts, à des manifestations devant les magasins Carrefour, etc. Aujourd'hui, si on regarde, les ventes françaises à la Chine ont augmenté de 3,5% depuis le début de l'année en Chine. Donc ça n'a pas affecté, je dirais.
Oui, mais Pékin pourrait remettre en cause les grandes commandes, des commandes d'État.
Alors là aussi, si vous voulez, il faut bien voir les choses. Aujourd'hui, la Chine, c'est presque un pays communiste. Enfin, c'est presque un pays capitaliste, je dirais. Enfin, c'est encore un pays.
Oui,
on sait plus très bien. Mais enfin, il fonctionne, si vous voulez, un peu comme nos économies. C'est-à-dire que les affaires sont les affaires. Il y a un peu de politique dedans, même dans les grands contrats. Mais en fait, aujourd'hui, de plus en plus, ce qui compte, c'est le prix. Hein, c'est le prix, c'est la qualité, c'est les transferts de technologie. Je dirais que ce sont des critères économiques qui jouent dans les grands contrats, plus que le drapeau, la couleur du fournisseur. Donc, inutile de céder à la menace. Ça sert à rien. Il y a eu des pays qui ont été en froid avec la Chine d'une manière beaucoup plus violente ces dernières années. Par exemple, l'Allemagne. Oui. L'Allemagne, la chancelière allemande avait rencontré le Dalai Lama il y a
18
ans et demi, oui, c'est ça. Oui. Eh bien, le business a continué, business as usual, comme on dit.
Sauf que l'Allemagne a des entreprises moyennes qui commercent avec la Chine. Il est plus difficile pour les Chinois d'intervenir. Hein. La réaction de Pékin, de gouvernement chinois d'intervenir, la réaction de Pékin est plus vive vis-à-vis de la France que vis-à-vis de l'Allemagne.
Alors, c'est vrai que d'ailleurs, vis-à-vis de la plupart des autres pays, la France a un statut un peu à part. Pour trois raisons, je dirais. Un, pour une raison politique. La France était considérée à Pékin comme un grand ami de la Chine, parce que la France, c'est le premier pays occidental à avoir reconnu, d'un point de vue diplomatique, la France, la Chine, c'était il y a 44 ans, le général de Gaulle. Donc, la France a un statut un peu de à part, c'est un grand ami, et quand un grand ami commence à ruer dans les brancards, eh ben ça provoque des ressentiments plus violents. Deux, la France, en revanche, c'est un grand ami, c'est un petit fournisseur de la Chine, si vous voulez. Si les relations économiques entre la France et la Chine se brouillent, ça gênera pas beaucoup la Chine, alors qu'avec l'Allemagne vend quatre fois plus que la France en Chine, ben là, ce serait un autre problème. Et puis, je dirais, troisièmement, la France semble avoir des difficultés à gérer ses relations politiques avec la Chine. Elle fait preuve de beaucoup de maladresse, d'erreurs d'habileté, etc. On pourrait dire, par exemple, qu'à l'époque de Jacques Chirac, déjà, la France adorait la Chine. Ça ne s'est pas traduit dans les échanges. Aujourd'hui, la France a une attitude un peu plus vindicative. Je ne pense pas que ça affectera beaucoup les affaires. Mais ce qui serait beaucoup mieux, ce serait d'avoir une attitude européenne par rapport à la Chine.
8h28, Eric Israelevitch, c'est Ramayad, tout à l'heure avec nous.
RMC, Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin.
Notre invité ce matin, Ramayad. Bonjour, Ramayad.
Bonjour.
Ça va ce matin ?
Ça va, merci.
Bien. Nicolas Sarkozy, c'est un fourbe, c'est un homme politique arrogant. C'est la presse chinoise contrôlée par l'État qui dit cela ce matin. Mmh. Est-ce que la Chine pratique une diplomatie de l'intimidation ?
Ses propos ne sont pas normaux, tout simplement.
Ils ne sont pas normaux.
Oui. C'est-à-dire que moi, je fais une différence entre ce que disent les autorités chinoises et ce que dit la presse.
La presse qui est contrôlée par l'État, quoi.
Peut-être, mais il y a aussi les internautes,
même.
Etc. Mais simplement...
Ils sont aussi souvent contrôlés par l'État.
De toutes les façons, le président de la République a vu comme il s'y était engagé le Dalai Lama et il n'a pas cédé à une quelconque intimidation, à un quelconque chantage.
Mais c'est une diplomatie de l'intimidation, la diplomatie chinoise ?
Ils ont une manière de s'adresser aux autres nations et notamment à la France qui me semble un peu spéciale. Je n'ai jamais vu de tels rapports entre des États qui sont censés être des partenaires. Et c'est très étonnant. Donc moi, je pense qu'il faut revenir à un peu plus de raison et établir un partenariat clair, net, traditionnel, et où on se dit les choses franchement. De la même manière que les Chinois nous parlent franchement, nous aussi, nous menons une politique franche. Et cela, on peut le faire d'autant mieux que le président de la République a donné des preuves de la considération qu'il portait aux Chinois et à l'État chinois, notamment en se rendant en Chine en visite d'État, en se rendant à l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, en évitant avec son accord de voir le Dalai Lama pendant les Jeux Olympiques de Pékin.
Mais la Chine nous en veut ou quoi ? Parce que je n'ai pas l'impression qu'elle ait le même discours avec l'Allemagne, par exemple, ou d'autres pays.
C'est très étonnant, je me suis fait la réflexion, croyez-moi.
Oui.
Les principaux dirigeants de la planète, que ce soit Angela Merkel, que ce soit George Bush ou encore le Premier ministre britannique,
ont rencontré
le Dalai Lama.
Oui.
Ils n'ont pas eu ce traitement.
C'est un pouvoir. Le Dalai Lama qui dit du pouvoir chinois, c'est un pouvoir rongé par le stress, la méfiance et la soif de réussite. Même analyse chez vous ?
Je ne connais pas le pouvoir chinois de l'intérieur. Oui. Peut-être que le Dalai Lama le connaît mieux que moi. Mais du point de vue diplomatique, nous, on a cessé de dire, et on continue à le dire, que nous tenons un partenariat stratégique avec la Chine, que par ailleurs, nous avons cette tradition qu'on appelle l'indépendance nationale, alors, qui fait qu'on fait ce que l'on veut.
Parlons d'indépendance. Tiens, est-ce qu'aujourd'hui, le peuple tibétain est un peuple indépendant ?
Non.
Est-ce que le Tibet doit demander son indépendance ?
Ça, c'est aux Tibétains de le dire. Mais en tout cas, la position de la France est très claire. C'est la même depuis que le général de Gaulle, en 1964, s'est prononcé. Le Tibet, nous considérons, aujourd'hui, fait partie intégrante de la Chine.
Oui. Est-ce que le peuple tibétain est sous la domination chinoise ? Est-ce qu'on est en train de tuer la civilisation tibétaine ?
Moi, j'ai la crainte que l'identité spirituelle et religieuse des Tibétains soit remise en cause par un processus de sinisation qui a cours depuis de nombreuses années. Par exemple, que les populations ont augmenté, c'est-à-dire chinoises, ont augmenté de 60% au Tibet depuis 2006. Depuis que juillet 2006, depuis qu'un chemin de fer Pékin-Lhasa a été mis en place, depuis que la Chine est entrée dans un processus de sinisation du Tibet, de telle sorte que les Tibétains ont le sentiment que leur identité spirituelle et religieuse ne peut pas s'épanouir correctement dans ces conditions.
Bien, on va parler de l'avenir de Ramayad. Vous voulez bien, Ramayad ?
Si vous voulez, et après c'est libre.
Est-ce que vous aimeriez devenir secrétaire d'État aux affaires européennes ?
Moi, je ne demande rien.
Non, mais ça vous ferait plaisir. Vous aimeriez ce poste ?
Moi, j'irai là où le président demandera d'aller, parce que sur ce genre de décision, je n'ai aucune prise, comme vous pouvez l'imaginer.
Dans tous les cas, vous n'irez pas aux européennes sous les couleurs de l'UMP.
Les européennes, il y a un petit peu plus de marge de décision personnelle, parce que ça, c'est
un engagement. Le président est étonné.
Qu'est-ce que vous en savez ?
Je ne sais pas, non, il l'avait déclaré, non ? Non,
moi, ce que je me suis expliqué là-dessus par rapport aux raisons pour lesquelles je ne souhaitais pas être candidate aux élections européennes. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter.
Mais enfin, secrétaire d'État aux affaires européennes, c'est un joli poste. À pourvoir,
mais c'est le président et le Premier ministre qui décident de ça. Moi, ça m'est très difficile dire je veux ceci ou cela.
J'ai une autre question. Je vais être très franc et très direct. Un ministre de la relance économique est-il utile ? Et j'ajoute une précision. Nous sommes dans un pays qui doit faire des économies. Un ministre, ça veut dire une administration. Ça veut dire des dépenses supplémentaires. Vous le savez bien. Ça veut dire de l'argent dépensé par l'État. Alors qu'il y a tant de hauts fonctionnaires à Bercy, au ministère des Finances, qui pourraient remplir ce rôle. Nous sommes le seul pays au monde à nommer un ministre de la relance économique, franchement.
Moi, je trouve que c'est une bonne idée.
Ah bon ?
Parce que le président de la République et le Premier ministre, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire à travers la création de ce ministère ? Ils ont voulu dire, voilà, nous avons un plan de relance qui a été annoncé à Douai par le président de la République, de 26 milliards d'euros, qui vient s'ajouter au plan précédent face à la crise financière. Nous avons donc
on oublie les 26 milliards, parce que dedans, il y a des milliards qui étaient déjà prévus. Et ça, oublions.
C'est Bercy, mais ce n'est pas que Bercy. Il y a aussi des mesures sociales sur l'emploi, notamment. Il y a aussi des mesures pour aider les personnes.
Le Premier ministre, non ? À quoi sert le Premier ministre ?
Mais justement, la mise à la relance est rattachée au Premier ministre. Oui. L'objectif de mise à la relance, c'est quoi ? C'est, en fait, d'éviter que chaque ministre...
Donner un poste à Patrick de Vejian.
Pas du tout, non. Il quitte l'UMP, mais il aurait pu lui donner tout à fait un autre poste. Là n'est pas le problème. Mais simplement, il a voulu éviter que chaque ministre ou chaque ministère qui pourrait être impliqué de près ou de loin par le plan de relance garde finalement son budget pour lui-même, par souveraineté ministérielle tout simplement, et évite, ou n'arrive pas à participer à cet effort collectif.
Il y a le ministre du budget,
Il n'y a pas que le ministre du budget, il y a aussi le ministre des Affaires sociales qui devra mettre en œuvre les exonérations sociales sur les emplois qui seront nouvellement créés.
Vous croyez quand même que l'État devait être modeste dans ses dépenses.
Mais l'État, l'objectif de baisse des frais d'administration se poursuivra en 2009. Ça, c'est un engagement qu'a pris le président de la République et le Premier ministre. Ils ont même dit que l'effort budgétaire supplémentaire ne sera que de 0,8%. Il sera concentré sur l'année 2009, de telle sorte que l'objectif de rationalisation budgétaire sera tenu en 2012, voire même amélioré. Donc de ce point de vue, je crois qu'il faut leur faire confiance. Et j'ajouterai en plus que ce plan de relance a pour objet de faire gagner quasiment un point de croissance, ce qui n'est pas rien, et de préserver ou de faire gagner 100 000 emplois à peu près. Ce n'est pas rien dans une économie bousculée par la crise financière.
Alors, Ramayad, vous êtes secrétaire d'État aux droits de l'homme. Est-ce que vous partagez les remarques de Christine Boutin qui va forcer les sans-abri à dormir dans des centres d'hébergement? Comment avez-vous reçu cette déclaration?
D'abord, on part d'un constat qui est difficile, qui est que chaque année, s'égrène le nombre, la litanie macabre des SDF morts de froid en hiver.
Alors comme qu'il en meurt époque, autant, malheureusement, en été.
Comme à une époque, on égrenait les morts de la route.
Oui.
Et face à cette situation, on oscille entre incrédulité et emballement. Les associations se trouvent démunies. L'État, de son côté, a le sentiment de faire, d'injecter des crédits, de construire des nouvelles places d'hébergement. Et puis, on a toujours ce sentiment que le sans-abrisme, comme disent certains sociologues, se poursuit dans des conditions dramatiques. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Christine Boutin? Elle n'a pas dit que demain, elle allait mettre en place un système d'hébergement obligatoire pour les sans-domicile fixe. Elle a dit... On va peut-être lancer une réflexion pour savoir s'il serait possible de contraindre un SDF à aller dans un abri d'urgence pour éviter de mourir. Évidemment, certaines associations n'ont pas apprécié cette atteinte à la liberté. Bon. Mais la question, le débat, c'est entre la liberté d'un côté des sans-abri de faire ce qu'ils souhaitent, de refuser un hébergement d'urgence, et puis la question de la non-assistance à personne en danger. La nuit dernière encore, un SDF de 31 ans, qui a mon âge, est mort dans la rue de froid. Alors, moi je crois aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait s'interroger de cette manière-ci. Quand on rencontre un SDF qui risque de mourir de froid, pourquoi ne pas lui proposer un bain, à manger, à boire. Et une fois qu'il a retrouvé cette lucidité qui lui permet de prendre sa décision, eh bien, il prend sa décision. S'il ne veut pas rester, d'accord, il ne reste pas. Et s'il veut rester, un hébergement d'urgence lui est proposé.
Bien, Ramayad, notre invité, on va parler des droits de l'homme dans un instant, et notamment des dernières déclarations de Stéphane Hessel, qui parle des droits de l'homme en France. Est-ce que la France est restée la patrie des droits de l'homme? Il est 8h43, vous êtes sur RMC.
RMC, Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin.
Ramayad est notre invité. Ramayad, oui. Est-ce que vous avez de l'argent placé en bourse?
Non.
Vous n'avez pas d'argent? Donc vous n'avez rien perdu en 2008?
Non, je n'ai pas la patience de...
Oui.
Vous voyez, d'acquérir des actions, de surveiller tous les jours.
Je ne sais pas si vous avez vu ce qui a été voté au Sénat. Je résume. Ramayad, j'ai de l'argent en 2008 placé en bourse. J'ai perdu 46 ou 47% de cet argent parce que la bourse a beaucoup baissé. Eh bien, je vais pouvoir déduire une partie de ces pertes de mes impôts en 2009. Est-ce que vous trouvez cela normal, logique, dans cette période difficile vécue par beaucoup de Français?
Présenté comme vous venez de le faire, je suis un peu surprise.
Tout à l'heure, nous avions le sénateur Marini qui était avec nous en direct sur RMC et qui nous disait cela. Attends. Qui nous disait, on aide bien les plus pauvres, je ne vois pas pourquoi on n'aiderait pas les Français moyens qui ont investi en bourse.
Ah oui, pourquoi ne pas aider les Français moyens? Reste à savoir si c'est la bonne manière de faire. Je veux dire, on n'a pas attendu ce type de proposition pour aider les Français moyens. Mais attendons de voir. Je crois que ce n'est pas aller au bout du processus. Mais je crois qu'il faut être un peu... Comment dire, savoir garder un peu de modération dans une période qui est très compliquée pour les Français et ne pas se lancer dans des opérations qui peuvent miner la cohésion sociale. Mais il faudrait voir si cet amendement va au bout. Je regarderai et comme ça je
serai plus. Qu'il a l'aval du ministère du budget.
On verra. Je vais regarder pour avoir une opinion définitive.
Patron de l'UMP, c'est une bonne idée, ça.
Ce n'est pas encore fait.
Oui, enfin, arrêtons.
Oui, mais je ne peux pas spéculer sur une éventuelle nomination.
Lui-même le dit.
Je ne peux pas spéculer sur une éventuelle nomination. Attendons que ce soit officiel. On ne sait jamais, ces choses-là, ça peut changer. Oui, imaginez, je félicite M. Bertrand et puis on se rend compte que finalement, je ne sais quel événement a changé.
Vous savez ce que je vais faire?
Oui.
Je vais revêtir un drapeau français. Je vais le mettre sur les épaules. Et vous allez comprendre pourquoi, Rama. Vous savez pourquoi? Parce que je suis français. J'aime mon pays.
Ah, mais vous aussi.
J'aime vraiment mon pays. Regardez, il est bien ce drapeau français. Oui. J'aime vraiment mon pays. Et je vous pose la question directement, les yeux dans les yeux, est-ce qu'aujourd'hui la France est toujours la patrie numéro un des droits de l'homme dans le monde. Est-ce que nous sommes toujours les champions du monde des droits de l'homme dans le monde? Franchement.
Nous faisons partie des États attendus et reconnus dans le domaine
oui,
des droits de l'homme.
Nous faisons partie des États attendus et reconnus. Mais est-ce que nous sommes aujourd'hui les champions du monde dans la défense des droits de l'homme?
Écoutez, je n'aurais pas la prétention de dire...
J'enlève mon drapeau.
Non, mais... gardez-le, oui, parce qu'on a bien des raisons d'être fiers des actions que nous menons à l'étranger sur la matière droits de l'homme.
Alors,
il y a plein de sujets, par exemple, sur les...
Que faisons-nous au Congo, par exemple?
Sur les droits des femmes, sur les droits des enfants, sur la justice, sur la peine de mort, nous sommes vraiment leaders et reconnus comme tels.
Et nos prisons?
Eh bien, après, personne n'est parfait. C'est pour ça que le mot champion, je ne sais même pas si on peut l'appliquer pour un seul État, parce qu'aucun État n'est parfait, malheureusement. Et la situation des prisons, elle m'indigne profondément. Je veux dire, j'ai reçu le monsieur Amarbert, qui est le rapporteur du Conseil de l'Europe, qui vient de faire un rapport sur les droits de l'homme en France et notamment les prisons. Et je ne suis pas fière, là, de ce que j'ai lu dans ce rapport. Je ne suis pas fière de ce qui en ressort, parce que cela porte atteinte à notre réputation de pays des droits de l'homme, parce que cela affaiblit notre message à l'international. C'est pour ça que nous ne devons pas nous cacher derrière notre petit doigt, faire comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a des suicides en prison.
C'est ce que dit Stéphane Hessel, que vous allez décorer demain, qui a été l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous savez ce qu'il dit? Il dit la France a beaucoup de retard en ce qui concerne le droit des étrangers, en ce qui concerne le droit de... les conditions dans lesquelles sont emprisonnés beaucoup de nos concitoyens. Alors vous faites quoi?
C'est vrai que je suis rattachée. J'aimerais bien interférer sur l'action de mes collègues, mais il y a un ministre de la Justice pour les prisons, il y a un ministre de l'Immigration sur la question des étrangers, notamment
irréguliers. Où est le ministre de la Justice d'ailleurs?
Comment ça, où est-elle?
Mais je sais pas, on la voit plus, on l'entend
plus. Bien sûr que si, on la voit. Ah, quand même, elle a énormément de travail, on la voit. Et moi, je suis rattachée au Quai d'Orsay, donc à l'action diplomatique extérieure. Ce qui, quelquefois, peut être un peu frustrant, parce qu'évidemment, face aux souffrances qui peuvent exister en France, il y a une attente là-dessus. Mais mes autres collègues sont aussi des ministres des droits de l'homme. Et il ne faut pas se décharger sur la secrétaire d'État aux droits de l'homme, qui en plus n'a pas autorité sur les prisons ni sur les préfectures.
Qui se fait taper sur les doigts lorsqu'elle dit, dit un peu trop ce qu'elle pense.
Moi, quelquefois,
je vous appelle Rama, je ne sais pas pourquoi.
Quelquefois, j'interviens sur les sujets intérieurs parce que je me dis, il y a une indivisibilité des droits de l'homme. C'est-à-dire, on ne peut pas prêcher à l'étranger les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme par certains régimes et chez nous, ne pas être irréprochable. Donc c'est pour ça que moi, j'appelle régulièrement mes collègues à une veille exigeante sur la question des droits de l'homme en France.
Vous aimez le foot? Vous suivez l'OM, les clubs du Sud, je crois.
Mais j'ai été pendant des années passionné de foot, et notamment des clubs du Sud à Montpellier.
Vous connaissez Santos Miracira?
J'ai entendu parler.
Oui, vous avez entendu parler. Voilà un homme, j'ai vu les images de ce qui s'est passé dans le stade de Madrid, lors du match Atlético Madrid-Marseille. On ne voit pas celui qui jette le siège qui va blesser le policier espagnol, et Santos Miracira est condamné à 3 ans et demi de prison. Demain, il y a un match. Est-il vrai que l'État va intervenir auprès du gouvernement espagnol pour que Santos Miracira soit rapatrié en France le plus vite possible?
C'est vrai que cette affaire a créé beaucoup d'émoi, d'émotions chez les supporters. Et je peux le comprendre, parce que la sanction est vraiment dure à encaisser pour ce supporter, et peut-être la famille des supporters se sent solidaire. L'Espagne, c'est pas non plus un pays lointain. C'est un pays proche.
Nicolas Sarkozy est intervenu dans la jungle colombienne, dans les geôles de Kadhafi. Il peut bien intervenir. Dites-moi, pour Santos Miracira.
C'est un pays ami avec lequel on peut peut discuter. Donc je crois que de ce point de vue,
il y a une demande officielle qui va être faite.
C'est Bernard Laporte qui est en charge de cette question. Moi, je lui fais toute confiance. Mais alors,
est-ce qu'il y a une demande officielle? Pareil, qu'il y a une demande officielle qui va être faite pour qu'il soit.
Je peux pas encore vous dire précisément. Je sais que d'un côté, on ne peut pas interférer dans un processus judiciaire. Vous imaginez un État étranger nous dire ce que notre justice doit faire. Bon, ça c'est une chose qui est importante à dire. Et de l'autre côté, écoutez, il y a les initiatives diplomatiques habituelles, traditionnelles, avec un pays ami. J'ai bon espoir que cette situation se dénoue plus favorablement
avant demain soir,
pour le supporter.
Avant le match retour
j'espère le plus vite possible, parce que nos supporters sont assez inquiets de cette décision.
Bien, 8h54, Emma Strack est avec les auditeurs d'RMC. Emma.
Cette question de Pierre, pour commencer, selon vous, qu'est-ce qui nuit le plus à notre réputation de pays des droits de l'homme ? Est-ce que c'est le fait que des hommes et des femmes n'aient pas de toit, les reconduites à la frontière, les travailleurs pauvres ou encore autre chose ?
Ah, tout ça. Ouais, oui, tout ça. Quand je suis à l'étranger, je vous le disais tout à l'heure, quand je reçois, par exemple, un dirigeant iranien à qui je parle de la lapidation des homosexuels en lui disant « c'est pas normal », et que dans notre pays, il me répond que dans notre pays, la France, ce qui se passe dans nos prisons, c'est pas normal, mettant tout sur le même plan, c'est à la fois scandaleux et en même temps, c'est quasiment normal qu'il dise ça.
Ah oui.
Parce que
On se doit d'être exemplaire.
On se doit, si ce n'est d'être parfait, parce que ça c'est impossible, d'être exemplaire. C'est-à-dire de prendre conscience des situations, de reconnaître les choses et de mener des actions pour y remédier. Ça c'est absolument indispensable. Chaque année, vous savez maintenant, il y a un nouveau système qui fait que chaque État du monde, même démocratique, est obligé d'aller à l'ONU, à la tribune des Nations Unies, et de faire son autocritique sur ses droits de l'homme chez lui. Et donc là, il subit les critiques de tout le monde, de l'Iran, de la Libye, et c'est un exercice très difficile. Et on est très critiqué sur trois sujets. Les prisons, les étrangers, la situation des étrangers, et le voile. Mais le voile, on assume.
Oui.
Voilà.
Bien. Autre question, Emma.
Oui, celle de Mathilde. Avant les JO, la France appelait au respect des droits de l'homme en Chine. Franchement, est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont avancé sur place ?
Non, je n'ai pas ce sentiment et je le regrette profondément.
Et oui, depuis les Jeux, rien n'a avancé.
Bah oui, c'est très regrettable.
Alors qu'on nous avait tant dit que tout allait avancer, que les Jeux allaient contribuer.
Parce que c'était des engagements.
Le mouvement olympique, le premier, nous avait dit ça.
Et des Chinois aussi.
Et les Chinois aussi,
les premiers à dire, accordez-nous les Jeux olympiques parce que nous allons nous améliorer sur le terrain des droits de l'homme. Donc nous attendons toujours de la Chine qu'elle tienne ses engagements.
Bien, j'ai trois questions politiquement concrètes, Ramayad. Oui. C'est trois questions que nous posons, qui sont un peu à la limite de l'actualité, en même temps plutôt personnelles. Première question, des enfants scolarisés qui sont expulsés, est-ce une atteinte aux droits de l'homme ?
Oui.
Atteinte aux droits de l'homme ?
Aux droits de l'enfant, oui.
Aux droits de l'enfant, oui. Vous ne comprenez pas qu'on puisse expulser des enfants scolarisés.
Il y a une convention des droits de l'enfant qui protège, qui est très protectrice pour les jeunes enfants, quelle que soit leur situation. Et oui, c'est attentatoire à cette convention.
Regardez-vous l'origine des produits lorsque vous faites vos achats ?
Oui.
Si vous voyez un produit made in China, vous n'achetez pas ?
J'essaie d'acheter des produits de qualité, et donc c'est pas China ou pas China. C'est... On voit quoi. Bon. Comment c'est fabriqué, c'est important, parce qu'il ne faut pas que les produits soient fabriqués par des enfants obligés de travailler ou des populations minoritaires enrôlées. Voilà,
j'ai une dernière question qui va être très dure, mais je vous la pose parce qu'on en a parlé dans l'actualité, et ça inquiète beaucoup, beaucoup de médecins notamment. Mmh. Est-ce que vous avez déjà mis des crèmes éclaircissantes ?
Moi ?
Oui.
Non, jamais.
Jamais. Vous avez vu ?
Comme je suis sombre de peau.
Non, mais vous avez vu combien certains, certaines en mettent et les dangers que ça représente.
Oui. Alors, d'abord, il faut quand même expliquer une chose. C'est très minoritaire. Hein.
Oui.
Et puis, deuxièmement, la démarche, elle est.
Comment la regardez-vous, cette démarche,
Elle est esthétique et sociale. Esthétique parce que c'est comme. Vous, M. Bourdin, si vous décidez de bronzer au soleil, et ben, il y a certaines femmes noires qui souhaitent, comme pour les autres, qui veulent se bronzer, qui veulent l'inverse. Comme quoi, il y a un rapprochement peut-être des couleurs qui peut s'opérer ainsi. Mais derrière l'aspect esthétique, il y a un aspect social de la part de certaines personnes qui pensent que les sociétés occidentales, ou même pas occidentales, parce que ça se passe en Afrique aussi, n'acceptent pas la couleur trop sombre, et que donc, pour bénéficier de l'ascenseur social, il faut paraître plus clair.
Voilà. Ça, c'est grave.
C'est grave, c'est gravissime, parce que ce sont des produits dangereux qui sont interdits, qui donnent le cancer, qui donnent des vergetures, qui finissent par ne même plus être esthétiques pour les visages. Donc voilà, il faut éviter ce genre de choses.
Merci Ramayad, je vous donne mon drapeau.
Avec plaisir,
pour vous,
merci.
Mon drapeau français. Voilà, merci Ramayad, il est 8h58 et vous êtes sur RMC et sur BFM TV. Merci.